Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Si vous avez raté la première heure, surtout précipitez-vous. Attention Christophe, ton micro est ouvert. Voilà, tu nous racontes tes vacances, c'est génial. Ça intéresse tous les auditeurs.
C'est pas mes vacances, c'est le Tour de France.
Si vous avez raté la première heure, précipitez-vous sur le podcast. Une fois l'émission terminée, à partir de midi, nous avons évoqué la soirée de chaos en Ligue 2, mais également ce match très bouillant, très chaud ce soir entre Nantes et Angers qui va décider du sort des Canaries pour la saison prochaine. Toujours avec Christophe Sessieux, mais ça vous avez reconnu sa voix, vous le savez, Stéphane Brun, Sarah Pitkowski, Denis Charvet dans quelques instants, le bras de fer des GG autour du départ de Christophe Galtier. Ça y est, c'est tacté. 10h30, un homme heureux, les barrages du top 14, c'est ce week-end. Vive les outsiders pour Pierre Amiche. Et puis 11h, la seconde des GG, il n'y a déjà plus de Français au troisième tour de Roland-Garros. Dès le jeudi de la première semaine, c'était rideau. Le bilan des tricolores espère que prévu. Vous n'êtes pas d'accord sur ce débat, les copains. Et puis ne manquez pas votre séquence, le guet-apens pour vous, les grandes gueules du sport, le fameux débat caché. Vous ne savez rien et pourtant, vous allez devoir tout nous dire. Quelle est votre sensation? Quel sera le débat caché qui a changé 5 fois depuis hier soir 20h, à peu près? Forcément, on a dû aménager le conducteur. Oh, il a une idée, oui. Denis Charvet.
Pogacar, ça commence bien.
Ouais.
Pogacar qui révèle je ne suis pas inquiet. Ouais. Avant le Tour de France.
Non, mais c'est du vélo.
Non, mais c'est pas un débat, ça. C'est une déclaration.
Est-ce qu'il bluffe? Est-ce que vous croyez en lui?
Non, mais
tu bluffes, Martoni? Tu penses qu'on va faire ça?
Mais non, mais n'importe quoi.
Si vous y croyez ou pas?
Pas du
débat.
Tout. Moi, j'en ai un.
Malheureusement, j'aurais bien aimé, mais non, ce ne sera pas ça, t'inquiète.
Moi, j'en ai un qui ne nécessite pas une expertise, mais un avis.
Ah.
Vas-y.
C'est l'américaine Jessica Pegula qui a fait une déclaration qu'elle souhaite le retour du trash talking sur les terrains
Denis
de tennis.
Contre, Denis contre.
Voilà.
Sur les terrains, pardon.
Sur les terrains de tennis, c'est-à-dire de mais pouvoir invectiver son adversaire et essayer de le rendre un peu plus
on
vivant.
On devait faire ce débat ce matin si l'actualité n'avait pas.
Oui, mais tu te rends compte, Sarah.
On devait faire un truc sur les.
Tu te rends compte, Sarah, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le trash talking, c'est-à-dire que les supporters de Roland Garros vont descendre, taper une joueuse, ça va se finir à coup de raquette. Non, on peut pas accepter ça quand même.
Non, mais c'est pas possible ça.
Ça devait être le cri de
on va mettre des grilles à Roland Garros,
de Pierre, justement, sur le fait que les mecs se plaignent à Roland Garros du comportement
du public français.
Moi, je trouve que ce serait vachement bien. Et je suis d'accord, il faut sortir un peu le tennis de son cocon, faut le mettre dans les mêmes conditions que dans tous les autres stades.
C'est pas ce qu'on te demande.
Faut que ça pousse, faut que ça siffle.
C'est ta proposition, Stephen?
Je sais pas, Thibaut Pinot, Tour de France, non, c'est pas ça, non?
Vous l'avez fait 15 fois la semaine dernière.
On l'a fait la semaine dernière déjà. Tu veux qu'on le refasse?
Non. Moi j'étais pas là. C'est pour ça peut-être, mais non plus.
Ok, réponse, ce sera à 10h40. Les artistes entrent dans l'arène. Ce soir, ce sera donc la dernière de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. Son départ est acté depuis plusieurs jours. Information hier soir de l'équipe, confirmée par RMC Sport. Les dirigeants du club n'ont pas encore le nom de son remplaçant, même si on imagine, si le Paris Saint-Germain a fait fuiter cette information, ils ont peut-être un entraîneur sous le coude. Je mérite de rester. Christophe Galtier avait jeté ses dernières forces dans la bataille le week-end dernier en conférence de presse. Il ne résistera donc pas à la saison chaotique des Parisiens, malgré le titre de champion de France. Alors ce choix de la direction parisienne, dans le coin gauche, c'est un signe de force. Sarah Pitkowski, Stephen Brun dans le coin droit, c'est un signe de faiblesse. Denis Charvet, Christophe Sessieux, c'est le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort? L'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Et vous êtes extrêmement nombreux à voter depuis ce matin sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Et c'est extrêmement serré, du 45-55. Mais 55% pour c'est un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Sarah Pitkowski, Christophe, Stephen Brun, vous allez débuter, vous êtes derrière. Sarah, tu commences. Pourquoi signe de force?
Pourquoi signe de force? Parce que cette annonce, elle est dans les tuyaux depuis plusieurs jours, mais elle vient d'être actée par une personne qui est le propriétaire du PSG. On ne parle pas du directeur sportif. On ne parle pas de Luis Campos. On ne parle pas de Nasser El Khelaifi. On parle du cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Le propriétaire. Ça, oui, mais le propriétaire. Et pourquoi c'est une décision que je mets dans la case plutôt être une force? Parce qu'elle s'associe aussi à une période où ils sont en train de prendre des grandes décisions. Avec le départ de Messi, le fait d'essayer de vraiment pousser Neymar dehors, Ramos hier, attention, Ramos hier, on lui propose de rester. On coupe son salaire à 50%. Voilà, on coupe son salaire. Donc, pour moi, c'est une position de force. Exactement. Une position de force parce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte, ils se remettent en question, j'ai envie de dire un petit peu comme chaque année, mais ils vont prendre des grandes décisions. Et malheureusement, Christophe Galtier rentre dans cette décision. Il n'a pas été à la hauteur de la saison attendu au PSG, même si on peut jouer sur le mot catastrophique, pas catastrophique. Non, le PSG qui fait une campagne de Ligue des Champions médiocre, qui passe au travers de la Coupe de France et qui se gargarise juste d'être champion de France pour la 11e fois, c'est le minimum syndical. Donc pour moi, oui, c'est une position de force parce qu'elle est prise par le propriétaire du club et elle engage plein d'autres décisions derrière, donc je suis obligé de le mettre dans cette case là.
Ok, signe de faiblesse.
Alors,
pour
nous
toi,
devons apprendre que de virer Galtier, c'est une grande décision. Alors là, tu me perturbes, Sarah, parce que ça fait 10 ans que l'entraîneur du PSG fait
9 ans.
Il y en a eu 7 en 10 ans. Ça veut dire que ça compte pas. Voilà, donc moi je vais pas défendre Christophe Galtier ni son bilan, peu importe. Je pense que au PSG, ça ne sert à rien d'être entraîneur d'une manière ou d'une autre, tant que la politique restera celle qu'elle est. Tu me dis Ramos, il s'en va. Mais Ramos, il est cramé. Qu'est-ce que tu veux? On ne va pas le garder, Ramos. Ils disent on sépare son salaire à 50%, c'est pour mieux le faire partir. Mais ce n'est pas une grande décision. Excuse-moi, Sarah, ce n'est pas du tout une grande décision. Que tu fasses partir Verratti, ce n'est pas une grande décision. Que Messi s'en aille, ce n'est pas une grande décision.
Donc il faut virer Mbappé, là, c'est une bonne décision. C'est une grande décision.
Mais non, c'est une politique en général qui n'est pas menée. Et comme tu as très justement dit, et là je vais être contre toi à 1000%, tu me dis c'est le tchèque qui a décidé. Mais c'est pour ça que c'est le vrai problème, il est là. Le vrai problème, c'est que c'est décidé ailleurs, dans un coin du monde.
C'est pas une décision en bois, ça, Denis.
Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Et si tu m'as embêté par rapport à la question du débat, mais sincèrement.
Il n'y a pas de politique, mais à chaque fois, on se prend à espérer, en tout cas, les supporters.
Mais tous les années,
peut-être qu'à un moment donné, ce sont vraiment les bons choix.
Alors tu me dis,
mais,
à un moment donné.
Mais dans ce cas-là, il fallait rien faire.
Mais
Denis,
quand, à un moment donné, le pauvre Christophe Galtier, j'ai envie de le défendre tellement ça me paraît fou.
Une fois qu'il est viré, tu veux le défendre, toi.
Non, mais c'est comment il le vire, tu vois, alors que il s'est défendu quand même en disant j'ai envie de rester, je pense que mon bilan.
Mais c'est pas une défense, c'est pas parce que tu passes en conférence de presse et que t'as envie de rester.
Mais est-ce que tu crois que le vrai problème.
Tu as envie de toi, bah tu.
Comme
tout le monde.
Tu penses que le vrai problème du PSG, c'est Christophe Galtier?
Mais non, c'est pas Christophe Galtier, tu as raison.
Mais il faut bien commencer par quelque chose.
Mais il faut bien commencer par quelque chose.
Si on n'avait rien changé après cette saison, que Galtier faisait sa deuxième année, que Verratti était encore là, que Messi, il prenait ses 30 millions, l'avait gardé,
je dis pas ça.
T'aurais dit, ah bah attendez, on fait une saison catastrophique, mais on garde les mêmes bases, on garde la même chose. Très bien, continuons à aller dans le mur.
Mais t'amènes un plan aujourd'hui,
t'en sais rien.
Ça donne l'impression, quand tu vois les décisions prises par les dirigeants du Paris Saint-Germain, que la faute incombe à l'entraîneur. Ouais. À chaque fois, la faute incombe à l'entraîneur.
Exactement.
Depuis 10 ans, l'hécatombe en Ligue des Champions incombe aux entraîneurs successifs. Et le premier truc que tu changes, c'est que tu vires l'entraîneur. Et après, on verra. Mais essayez de construire intelligemment, essayer de recruter. Là, on nous annonce comment il s'appelle, Asensio.
Ouais.
C'est une bonne idée, ça,
non,
Asensio,
ouais.
Paris Saint-Germain.
Si c'est un garçon de complément qui vient renforcer le banc, c'est une très bonne idée.
Mais Asensio,
tu peux aussi être Galtier aujourd'hui.
Quoi ?
Il n'y a pas que Christophe Galtier qui part, puisqu'on vient de te donner la liste, tu as raison.
Mais c'est pas des
grands. On virait chaque année l'entraîneur. Aujourd'hui, on ne vire pas l'entraîneur.
Mais tu ne vires pas Messi.
Mais Messi,
tu
ne le vires pas, il s'en va.
Ils lui ont proposé à Ramos de rester. Peut-être que s'ils avaient proposé à Galtier.
Mais oui, pour qu'il s'y
revienne à 50%. Mais est-ce que tu tu penses que Messi, on le vire ou il s'en va? Pour moi, il s'en va, Messi. Ah, reste pas.
Je suis pas sûr qu'on ait voulu le garder. Hein.
Bah, quand même.
Mais on connaît pas les détails des négociations.
Essayez déjà de recruter des bons joueurs.
Mais pour recruter, il faut en faire partie équilibrée.
Moi, je trouve que c'est la solution de facilité de se débarrasser de l'entraîneur à chaque fois directement. Voilà. C'est le
bouc émissaire.
Le bouc émissaire, le fusible.
Mais pas cette année. Il n'est pas que le seul. Non, c'est pas nouveau, mais au Paris Saint-Germain.
Tu disais 8 entraîneurs en 10 ans quand même. Alors qu'ils sont champions de France depuis 10 ans.
Et au Bayern, c'est la même chose. Ouais, les entraîneurs.
C'est pas pour ça que c'est mieux. Hein.
Après, vous me dites Galtier, c'est un fusible comme un autre, Christophe Galtier. Mais j'ai l'impression que les gens ont oublié ce que Christophe Galtier a mis en place sur le match aller face au Bayern Munich. C'était une honte absolue la façon dont le Paris Saint-Germain a joué contre le Bayern Munich au match aller. Vous vous rappelez quand même?
Ils sont 10 derrière.
Oui,
il répondra qu'il
avait beaucoup de
blessés. Et donc, parce que t'as des blessés, ça t'empêche de jouer d'une façon différente avec les joueurs que t'avais quand même sur la pelouse. Tu joues à 10 derrière.
Non.
Il a quand même eu une saison très particulière avec des joueurs qui ne se préparaient que pour la Coupe du Monde et qui, une fois la Coupe du Monde terminée, n'en ont plus rien eu à faire. C'est quand même pas évident pour un coach.
Mais il y a d'autres entraîneurs qui sont sortis avec ces choses-là. Guardiola, ils sont sortis. City a été meilleur après la Coupe du Monde qu'avant. Ça veut dire qu'il y a des coachs qui s'en sont sortis.
Tu penses que c'est la faute du coach.
Je suis d'accord.
Tu penses que c'est la faute du coach si
Christophe Galtier n'a rien tenu. Christophe Galtier, il est arrivé au mois d'août.
Mais personne
n'est au-dessus de l'institution. Moi, je vais tenir tout le monde. Il y a un mec qui déborde, il dégage. Mais il nous a pipoté. Peut-être qu'il a compris que c'était pas possible.
Mais non, il l'a pas tenu. Mais Stephen, c'est très bien qu'au PSG, personne décide de rien. Je suis désolé, il n'y a aucune autorité. Donc, tu critiques Christophe Galtier. Je pense qu'il a aucun pouvoir de décider quoi que ce soit. En même temps, il peut dire des choses.
Il avait le pouvoir de mettre des choses tactiques en place quand même.
Il a essayé. Après, il y a des blessés. Il y a la Coupe du Monde qui l'a pas aidé, ça c'est certain. Alors qu'en début de saison, il fait un très bon début de saison.
On savait depuis l'élimination en Ligue des Champions qu'ils allaient le virer.
Oui. Mais on savait dès qu'il avait signé au PSG qu'il allait faire qu'un an.
Non, ça c'est pas vrai. Mais il y avait un doute quand même sur le côté si on trouve pas le bon profil. C'était la petite musique.
Ils l'ont trouvé.
Si on trouve pas le bon profil, on aura peut-être encore Christophe Galtier la saison prochaine.
Donc demain, nous ferons un débat sur quel entraîneur pour le Paris Saint-Germain.
Non, parce qu'il va arriver vite. Il va arriver vite l'entraîneur, parce que s'il a annoncé aujourd'hui, ça veut dire que dans 2-3 jours, tu as le nouvel entraîneur.
D'accord.
Oui, c'est...
Hier en conférence de presse, Christophe Galtier était là. Il a parlé de son avenir. Forcément, à chaque fois, chacune de ses sorties, il est questionné sur son avenir. Écoutez, Christophe Galtier, on l'a appris hier soir, c'est donc acté, il ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
Cette semaine, il n'y a pas eu de discussion sur la saison prochaine. Tous les esprits sont tournés vers la situation de Sergio. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Et dans les jours qui vont suivre, il y aura automatiquement la question de la saison prochaine. Il y aura évidemment des questions concernant mon avenir. Personne n'imaginait que Igor Tudor allait partir. C'est comme ça, c'est le football d'aujourd'hui. Il sera à temps la semaine prochaine d'échanger avec ma direction pour savoir quelles seront les orientations pour la prochaine saison.
On ne sait pas s'il y a toujours cru, mais en tout cas, il s'est toujours défendu.
Oui, il s'est défendu, c'est tout à son honneur, mais je pense que depuis le début, c'est que il est pas bête. Hein,
il y a un dernier élément à prendre en compte aussi, Denis, c'est cette histoire-là, hein, cette histoire qui pour l'instant est mise sous le noir, mais la justice pour l'instant continue d'enquêter.
Qui a peut-être pas joué
tous les joueurs et tous les dirigeants niçois ont témoigné. Pour l'instant, c'est pas sorti, mais si ça devait sortir et si effectivement c'était à charge contre Christophe Galtier, peut-être que les dirigeants du PSG ont eu vent de ce qui était ressorti des procès-verbaux. J'en sais rien, je dis ça comme ça, hein, mais il y a cette espèce de casserole qu'il traîne aussi depuis
ça peut compter maintenant.
Hein. Alors, la DR de Christophe Galtier ce soir face à Clermont à 21h au Parc des Princes. La DR également de Lionel Messi, la DR aussi de Sergio Ramos. En fin de contrat, l'Espagnol ne prolongera pas au PSG. Il a lui-même annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Demain, c'est un jour spécial. Demain, je dis au revoir à une autre étape de ma vie. Au revoir au PSG. Je ne sais pas dans combien d'endroits on peut se sentir chez soi, mais sans aucun doute, grâce au PSG, à ses supporters et à la ville, Paris est pour moi un de ces endroits.
Bravo, merci pour le pipeau Sergio, c'est cool.
Peut-être, mais lui, il a fait d'autant plus d'efforts et beaucoup plus d'efforts que Lionel Messi. Lui, il a voulu s'intégrer au Paris Saint-Germain. Et j'imagine que les supporters du PSG, même si c'est aussi de la communication, Bah, voilà.
Mais tu peux pas lui reprocher son engagement sur le terrain. C'est vrai que le garçon a été blessé, il est revenu nulle part.
Il a joué, une saison.
Oui, mais attends, ça a été un pari risqué. Ils n'ont payé aucune indemnité de transfert, ne l'oublions pas, même si son salaire est cher. Mais c'est pas celui qui a coûté le plus cher. Et puis après, il est revenu, il a rendu le service cette année.
Il a rendu le service, mais quel est le bilan de Sergio Ramos? Pourquoi, rappelez-vous pourquoi on fait venir Sergio Ramos au Paris Saint-Germain? Attention, taulier de vestiaire, il va ramener la culture de la gagne, lui qui a gagné la Champions League, il va tenir le vestiaire. Mission accomplie.
Ouais, mais un joueur fait pas tout. Tu sais très bien que Jean ne peut pas régler tous les problèmes d'un vestiaire.
Échec. Alors, je vais répondre à cette question parce que oui, mais lui, c'est jamais caché. Même au bout de quelques mois où il ne jouait pas, il a dit je suis désolé, mon corps pète un peu, mon corps me lâche un peu.
Il a été honnête.
Mais je veux revenir pour donner enfin ce que je peux donner à cette équipe. Et au moins, il s'est pas caché. Au moins, il a
jamais dit c'est caché.
Par contre, oui, c'est sûr qu'il s'est pas caché quand il y avait des ballons en profondeur. Il s'est pas caché. La caravane accrochée à son short, elle était pas cachée, celle-là.
On peut pas lui reprocher de vieillir et de plus être
Christophe.
Voilà. 37 ans, hein.
Mais si, mais quand il me regarde, je sens la même vie, tu vois, quand il me regarde.
Lui aussi, il a une charrette. Et alors, Christophe? Et alors,
il a une charrette. Attends, laisse-moi regarder le salaire de.
Ah oui, j'ai pas la même charrette. J'ai des vieilles roues en bois, moi.
Il est où Sergio Ramos, 6 millions la saison. C'est pas le même,
c'est pas
beaucoup,
la charrette, hein, je te le dis.
Ok, le départ de Sergio Ramos, le départ de Christophe Galtier, toutes ces informations à retrouver sur rmcsport.fr.
Et qui a gagné alors?
Je vous donne évidemment le résultat de ce sondage. Qui a gagné? Nous sommes passés à 56%. 56%, c'est un signe de faiblesse. 44%, c'est un signe de force. Le départ de Christophe Galtier. Et ce soir, le grand multiplex de la Ligue 1 à suivre dès 20h, 21h, les coups d'envoi jusqu'à très tard avec l'after autour de Gilbert Bribois. On se retrouve dans quelques instants. Un homme heureux, les barrages du top 14, les barragistes sur le pont ce week-end avec deux matchs très alléchants. Un homme heureux, c'est Pierre Amiche. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h28, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Denis Charvet, Stephen Brun dans une dizaine de minutes. Restez bien avec nous, c'est l'heure du fameux débat caché. On vous a concocté, chers auditeurs, et à vous, les GG, quelque chose de formidable. Vous allez forcément aimer ce débat, ce sera donc dans 10 minutes. Mais comme tous les samedis, comme tous les dimanches à 10h30, on fait entrer Pierre Amiche.
RMC. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content, content, content.
Pierre Amiche.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors pourquoi heureux aujourd'hui?
Parce que j'ai dormi 4 heures, j'ai changé 9 fois de thème entre hier et ce matin. C'est donc forcément une chronique grandiose. Il n'y a aucun propos, il n'y a pas trop de vannes. Mais bon, je ne vais pas faire ma coquillette, ça reste pas l'usine, hein, on n'est pas des bêtes. Aujourd'hui, je suis un homme mi-heureux, mi-en colère et bizarrement un petit peu nostalgique parce que aujourd'hui, c'est le début des phases finales du championnat de France de rugby. Les barrages et sa farandole de sentiments contradictoires et tourbillonnants. La peur de passer à côté, l'excitation, l'attente, l'espoir, parfois la souffrance indicible d'une saison qui se termine trop tôt. Parfois aussi la joie sans égale d'une victoire dans un match à la vie et à la mort. Puis je sais pas, il y a un truc qui se passe en moi quand c'est le mois de mai, de juin. En fait, le rugby me manque. Pas les fourchettes, les bagarres et les mêlées, hein, mais les regards entre potes dans le vestiaire et puis Madeleine de Proust sublime pour le petit sanglier que je suis. Les bruits de crampons sur le carrelage, l'odeur du camp, le clubhouse plein de vie, les éducateurs, les bénévoles, les madrés, les padrés, les copines, les femmes, les gosses dans les tribunes. En fait, retrouver les copains, il y a un truc qui se passe en moi. Je sais pas, j'ai à nouveau envie de galoper comme un vieux cheval obèse et mettre des crochets à la terre entière. J'ai envie de toucher le ballon, quoi. C'est les phases finales. Pour moi, c'est les premiers souvenirs ovales. C'est le Grand Clermont, l'immense Toulouse, le Stade Français. C'est les beaux jours, les stades pleins, les grands matchs. C'est des petits shoots d'émotion. Je trouve qu'il n'y a rien de plus fort qu'une victoire en phase finale. Ça fait partie, ces phases finales du top 14, de mes 3 rendez-vous de l'année avec le Tour de France, le championnat et les joutes nautiques marandaises, le village de mon papa. Et puis là, il y a un mec avec un physique de phase, mais des bras qui s'excuse d'être là, qui me dit « En fait, moi, je pense que ça serait plus fort qu'on parle de Tudor et de Marseille parce que c'est plus concernant le rugby, tu sais, c'est un sport de niche, mes chaussons sur ton museau, gna gna gna. Comme si je devais t'expliquer que parler tennis, c'est pas mal pendant Roland et causer bicyclette, ce serait pas nécessairement une erreur pendant le Tour de France. Oui, Jean-Christophe, il existe un monde en dehors du football. Alors, mon petit JC, minable cochon du sport, je te le dis. Non seulement c'est important de parler des phases finales de rugby, mais c'est surtout criminel de pas le faire à 3 mois de la Coupe du Monde en France. Et alors que t'as une quinzaine d'internationaux sur la pelouse, c'est le plus vieux derby de l'histoire. C'est un siècle de haine et d'amour. Finn Russell est sur le terrain. Va falloir ouvrir tes chakras, mon pote. Il y a pas que le PSG, l'after et le poivre de Sichuan dans la vie, hein. Je vais pas toujours être là pour sauver ton émission. Alors oui, si tu veux causer danger de Dijon, de Loin-Cuiseau, tu retournes faire Formule Foot sur l'équipe. Bon après, j'avoue qu'on a un vrai problème cette année. C'est que les gogos comme toi pensent qu'il y a que deux équipes qui peuvent gagner, Toulouse et La Rochelle, et qu'on parlera jamais des autres, le Loup, l'UBB, le Stade Français. On s'en fout un petit peu. Bon, j'avoue, c'est un peu vrai. On a le sentiment qu'aucune des quatre équipes barragistes peut espérer faire un truc. Alors, on dirait les concours de la police. Il y a 6 places, mais il y a que 2 candidats. Il n'y a pas un suspense de fou. Et j'avoue qu'on a du mal à imaginer Lyon, Bordeaux, le Racing ou Paris champion. Mais attention, mon bon monsieur, le rugby est truffé d'histoires de révolte, de montage de bourrichons, de victoires irrationnelles. Castres en 2013 et en 2018, le Racing en 2016, le Stade Français en 2015. Tous sur le papier, c'était des sparring partners, des faire-valoir, des équipes qui n'avaient pas vraiment une tête de vainqueur. Et dans ce genre de match, il y a une part d'inexplicable, de mystique, un coup de plafond, un plaquage au sourcil, une manchette moldave et tu peux plier le match avec un carton rouge. C'est la glorieuse incertitude du sport, mon bon JC. Ah, c'est sûr que le sang, les larmes, la sueur, la passion dévorante des supporters, la folie irrationnelle d'un match qui bascule sur un geste, sur une action légendaire, sur un plaquage de mutants, ça vaut pas le départ de Christophe Galtier qui était acté depuis 4 mois. Tu me dégoûtes. Favori ou non, la guerre est déclarée, place désormais à la plus belle période de l'année, celle des apéros en terrasse et des matchs couperets.
Merci beaucoup Pierre Amiche. Eh ben au moins on arrive à parler de Top 14. Voilà, Christophe Cessieu et Pierre Amiche sont très heureux de ça. Eux qui voudraient avoir 0% de foot dans cette émission. Bravo, allez faire votre émission ailleurs. À 14h, Stade Français Racing 92. Demain, Lyon, le Loup face à l'UBB. Ce sera à 21h05. Deux matchs à suivre sur RMC évidemment. Alors est-ce que, comme Pierre Amiche, vous êtes heureux de voir ces deux affiches ou non? Pour vous, ce qui va compter, ce seront les demi-finales avec le Stade Toulousain, avec La Rochelle. Heureux ou pas heureux, Christophe Cessieu?
Moi, je suis heureux. Je suis comme Pierrot. Les phases finales qui arrivent, ça sent la merguez. On va entendre les bandes d'as. Il fait beau, il fait chaud, c'est la fête. C'est ça le rugby.
Non, dit Christophe Rio,
c'est autre chose. Regarde la différence de la fin de saison en football. Regarde ce à quoi on a assisté hier. Eh ben, tu verras jamais ça dans le rugby. Aujourd'hui, ça va être la fête.
Jamais.
Parfait. Je pense qu'on est encore un peu à l'abri.
On va parler de Mohamed Aouas alors. Sarah Pitkovski.
C'est pas sur internet. Écoute, je suis pas heureuse, je suis pas malheureuse, mais ce que tu dis que ça va être la fête ce week-end, ça le sera aussi en demi-finale. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est quel est l'intérêt de ces demi-finales, sachant que sur les 3 dernières éditions, c'est toujours le premier et le deuxième du championnat qui se retrouvent en finale, et que selon les statistiques, il y a à chaque fois plus de 50% de chances que ce soit le premier et le deuxième qui se retrouvent en finale. Et j'ai vu une sortie de Mourad Boudjelal hier qui m'a interpellée, qui dit en fait, les barrages, c'est juste le droit d'aller se faire défoncer en demi-finale. Alors, je suis allée voir le podcast. Le problème, c'est qu'il ne dit pas pourquoi. Donc, j'attends. Donc, Mourad, si tu peux m'expliquer effectivement pourquoi tu penses que ces barrages n'ont pas lieu d'être. Parce
écoute, entre les poteaux.
Écouter entre les poteaux. Vous allez en parler de ça?
Toutes les réponses de Denis, à part toutes les réponses.
En tout cas, voilà, je ne suis pas plus ou moins malheureuse. Force est de constater que dans le rugby, quand tu as une semaine de plus, a priori, tu as quand même plus de chances d'aller en finale. Donc,
Oui, mais rappelle-toi de Castres en 2018.
J'ai dit que j'étais ni malheureuse ni heureuse. Je suis entre Denis et Stéphane.
À la différence du foot où tout est calculé, tu sais, tu as un nombre de points, il y a la possibilité pour celui qui est sixième d'être champion de France. C'est ce qui s'est passé en 2018. C'est quand même pas si longtemps que ça. Il y a 5 ans, il y a eu une saison qui a sauté en plus de depuis. Castres qui était 6e, qui a réussi à être champion. Je n'y crois pas une seconde pour cette saison.
On y vient.
Mais c'est toujours possible. C'est ça aussi la glorieuse incertitude du sport et surtout du rugby.
Simon soit-elle.
Stephen Brun.
Oui, c'était quoi la question?
Il n'y a plus vraiment de questions.
Oui, j'ai compris.
Là, ils sont sur le table. T'es pas obligé de répondre puisqu'il n'y a plus de questions.
Écoute, est-ce que les années
précédentes.
Oui, moi j'aime bien. Moi ça me plaît. Surtout que je pourrais profiter pour la première fois des demi-finales à Saint-Sébastien la semaine prochaine.
Oui, mais les demi-finales, c'est une chose. Là, on parle des barrages.
Est-ce que les années précédentes, sur le barragiste qui crée la surprise, il y avait deux ogres comme le Stade Toulousain et La Rochelle cette saison? Est-ce que c'était le cas les années précédentes? Je sais pas, je demande au spécialiste de rugby, c'est une vraie question.
Toulouse a régné depuis de longtemps, mais...
Mais pour la première saison, on sent vraiment deux équipes largement au-dessus.
En 2021, Toulouse et La Rochelle font 1 et 2 de la la saison régulière, il se retrouve en finale.
Non, mais la problématique, alors, c'est vrai que ça fait quoi, 6 ans qu'il n'y a pas eu de champion, de 6e qui ont été champions.
Depuis 2018.
Moi, je pense qu'aussi, le rugby a évolué. Alors, oui, c'est la grande question. Est-ce que le fait que le rugby ait évolué physiquement fait que tu arrives en fin de saison rincé et que tu as moins les armes pour te défendre en demi-finale? Je le crois. C'est-à-dire que je crois que la gestion est devenue de plus en plus compliquée et complexe pour les clubs et pour les joueurs. Donc, si tu veux, la raison pour laquelle depuis 6 ans il n'y a pas eu de 6e champion, c'est là-dedans qu'il faut la chercher. C'est-à-dire que tu arrives trop fatigué en demi-finale.
Je précise que la première demi-finale, c'est vendredi 9 juin, donc vendredi prochain, et que Toulouse recevra soit le Stade français, soit le Racing 92.
Toulouse et La Rochelle ont très bien géré leur saison.
Oui.
Se sont qualifiés directement pour les demi-finales. Ont pu se reposer, notamment La Rochelle, depuis sa finale de la Coupe d'Europe. Bon, ils ont fait que picoler pendant 10 jours. Mais là, a priori, ça s'est calmé. Et ils arrivent plein bas.
Le bon exemple, c'est La Rochelle l'année dernière. La Rochelle a joué sur les deux tableaux. Ils ont gagné à Marseille. Et ils n'avaient pas de journée de récupération. Ils ont enchaîné. Ils ont explosé. Voilà. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, peut-être cette année ou dans l'année prochaine, il y a un 6e qui sera champion. Moi, je crois qu'un jour, il y aura peut-être cette éventualité, notamment avec le Racing qui a les armes ou le Stade français qui a des armes devant à défendre. Encore une fois, les grandes chaleurs arrivent. On a vu que le Stade toulousain est allé à Faro se préparer aux grandes chaleurs.
Au Portugal.
Ça veut dire que ça va être très compliqué pour celui qui va se les taper vendredi prochain.
En fait, tu es en train de donner les arguments qui disent que oui, plus tu vas faire des phases de barrage, plus effectivement il arrivera dans les décennies qui est une surprise.
Malheureusement
ou heureusement, mais le fait est que
après c'est celui qui gère mieux la saison qui est récompensé aussi. C'est-à-dire le premier qui finit premier.
Donc ça sert à quoi de te rajouter des barrages?
Mais les barrages, ça veut dire que t'impliques quand même plus de suspense dans le top 14. Parce que si tu te contentes des 4 premiers, t'as un ventre mou qui est catastrophique en fait. Et sur la fin de journée, t'as plus d'enjeux, Sarah.
Si tu donnes un biscuit.
Je sais pas, vous arrêtez pas de dire qu'il y a trop de compétition dans le rugby.
Sinon, le 5e, 6e, tu donnes pas de biscuit.
Elle est en train de s'étendre avec des matchs supplémentaires. Donc on fait comment?
Tu peux réduire le top 14 à un top 12. Et garder quand même les 6 premiers qualifiés pour les phases finales.
Moi, j'élargirais même. Moi, je te dis, ils font 6, moi, j'irai à 8, moi. Je ferai des barrages. Non, quand je dis 8, je ferai des barrages.
Tu as un tableau tennis, quoi.
Ben moi, je ferais du 4, du 5 ou du.
Et pourquoi on ne prendrait pas les 14 premiers?
Ouais, on pourrait faire quart, demi-finale. Ouais. On fait comme au tennis.
Quoi, à l'époque où tu jouais, Denis, c'était quoi?
Non, nous, à l'époque, on commençait même en 16e. Après, il y a eu les 8e. Mais au début, 16e, 8e, quart, demi. C'était le titre. Il était vachement compliqué.
J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs, beaucoup d'internationaux au top 14, et que si tu fais pas 1 et 2, l'aspect fraîcheur, tu le payes, en fait. On l'a vu les dernières avec Castres et Montpellier, qui étaient peut-être pas les deux plus grandes équipes sur le papier, mais avec un match de moins joué, ils ont été en finale, en fait. Et qu'aujourd'hui, il y a trop de débauche d'énergie entre la Champions Cup, peut-on à destination, le top 14, qui est d'un niveau exceptionnel.
Et il y a moins d'une semaine de récupération.
Et c'est pour ça que le Stade Toulousain s'est assuré la première place, parce qu'il y a un gentleman agreement en disant que le premier joue, la première demi-finale. Ils vont avoir 24 heures de repos supplémentaire.
En plus. Exactement. Denis, Stade Français Racing qui s'impose cet après-midi, 14h.
Moche nul.
C'est à midi, hein, l'émission des paris.
Non, mais je veux juste savoir, c'est comme ça, une petite sensation.
Petit avantage au Racing, dans la mesure où il va faire très chaud à Jean-Bouin. Et on sait que la chaleur, sur des gros pas comme celui du Stade Français, ça risque de peser.
Ok, demain, Louis-Bébé.
Louis-Bébé, je vois bien la surprise du bébé. Voilà,
ok. L'UBB, le Racing, donc les deux équipes qui jouent à l'extérieur pour toi, se qualifieront pour les demi-finales du top 14. Vous serez là-bas avec le Moscato Show à Saint-Sébastien.
On sera à Saint-Sébastien, oui, exactement.
Exactement, pour ces demi-finales du top 14 la semaine prochaine.
Nous
serons au Mans pour les 24 heures du Mans le samedi et le dimanche, et les 100 ans, le centenaire des 24 heures du Mans. 10h40, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Ce moment que vous attendez tous, le débat caché. Quel est-il? A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h43, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi avec Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Stephen Brun, Christophe Cessieux à partir de 11h. La seconde des GG autour de ce Roland-Garros maudit pour les Français. Dès le jeudi de la première semaine, il n'y a plus de tricolore. Leur bilan est pire que prévu. Ce sera notre question. Mais tout de suite, c'est l'heure du guet-apens.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir tout vous dire. Pour la première fois à la radio française, un débat caché, un piège pour vous les GG, car vous n'avez pas eu le temps de vous préparer. Le guet-apens du jour, c'est ça.
Yeah, I came out and the crowd was so great, honestly, like... The crowd was just so great that I had to let it fire me up and... I mean, they cheered so well for me, I wanted to make sure I won, you know? Thanks, guys.
Thank you.
Ambiance incandescente sur le cours Suzanne Lenglen jeudi soir. Le tombeur du dernier Français dans le tournoi, Taylor Fritz, que vous avez entendu, n'a jamais pu vraiment faire son interview d'après-match avec Marion Bartoli. L'Américain a été chahuté durant toute la rencontre par le public français qui voulait voir la victoire d'Arthur Hinderknecht, applaudissant avec fougue chacune de ses fautes. En réponse, Taylor Fritz a mis son doigt sur la bouche à de nombreuses reprises pour faire taire le public ou le provoquer encore plus. C'est selon le Français, lui, à apprécier cette ambiance.
C'était de la folie, c'était génial. Moi, je suis plutôt pour d'avoir un petit peu cette ambiance foot, en tout cas foot européen. Je pense qu'il y avait un peu plus de monde sur le Lenglen. Je pense que le stade en Australie était un peu plus petit, mais je pense que les Australiens étaient encore plus, enfin même bien plus bourrés que les Français ce soir. Et ça m'a fait plaisir. C'était la première fois où j'ai eu trois ou quatre fois des grosses ambiances en Australie contre des Australiens. Ça faisait plaisir d'en avoir une à la maison.
La question de ce débat caché, le public français est-il allé trop loin ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Non.
Sarah Pitkowski ?
Non.
Stephen Brun ?
Non.
Denis Charvet ?
Tu veux que je réponde de quoi ?
Ce non. Que tu penses ? Non ? Pour vous, il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a pas mal d'observateurs du tennis qui ont commencé à se plaindre en disant « ça ne se fait pas ». Djoko lui-même a dit en conférence de presse « c'est un manque de respect que de huer les joueurs ».
Oui, c'est bien sûr que c'est un manque de respect de huer les joueurs. C'est aussi un manque de respect de ne pas laisser s'exprimer à la fin du match. Bon, enfin, de là à dire que le public français ne sait pas se tenir, pas plus ou pas moins que quand tu vas à l'US Open ou en Australie. Souviens Daniil Medvedev à l'US Open qui s'était mis tous les Américains à dos et il s'était nourri de ça pour aller jusqu'en finale d'ailleurs.
Oui, en plus, ils se nourrissent souvent de ça.
Et encore une fois, le tennis est quand même un petit peu aseptisé. On a quand même des règles. Enfin, l'ATP, la WTA sont en train de durcir les règles. Le match est, voilà. Oui, c'est un peu trop, mais de là à dire que le public français ne sait pas.
Sinon, on va arriver. Il y aura plus de bruit dans les stades. C'est-à-dire qu'on va faire taire tout le monde.
Pourquoi on mettrait pas les grillages?
Mais on met dans ces cas-là, mais personne dans les stades.
Mais voilà, tu joues à huis clos. Non, mais c'est vrai, c'est ridicule. Le public fait partie. À partir du moment où il n'y a pas de débordement.
Et puis jouer à domicile, c'est ça aussi. Jouer à domicile.
Mais oui, à domicile.
On a un tournoi du Grand Chelem par saison déjà, qu'on a du mal à voir des Français performer sur le terrain. Si en plus de ça, on peut même pas bénéficier un petit peu de soutien populaire sur un court, sur un match qui joue ce soir, où on pousse le Français, où on essaye un peu de déstabiliser l'adversaire. Ça rime à quoi alors d'avoir un tournoi du Grand Chelem et de jouer à domicile? Vous croyez qu'en Australie, les Australiens ils mettent pas le feu quand les Australiens ils jouent contre
et surtout le soir.
Et à l'US Open pareil. Moi j'ai été outré hier parce que moi je regarde Roland Garros sur le service public. Tous ces pisse-froids là. Michael Laudra qui lui était sur un court de terrain. Un fou furieux, l'entendre dire c'est pas normal, non là ça dépasse la limite, bah, arrêtez vos bêtises. Mais où est-ce qu'on veut emmener le tennis en fait? Où est-ce qu'on veut emmener le tennis aujourd'hui? On veut qu'il n'y ait pas un bruit, qu'on entende les mouches voler. Ça fait pas. C'est un des rares sports avec le golf où t'as pas le droit de prononcer un mot quand il y a un mec qui sert ou il y a un mec qui fait un coup droit. Arrêtez, les gens ont besoin de s'exprimer, ont envie d'encourager, surtout un Français. Hinderknecht, il s'est régalé, Taylor Fritz. Vous croyez que Taylor Fritz, il s'est même pas régalé, alors peut-être que ça lui a fait monter la pression. Vous croyez qu'il s'est pas régalé de gagner sur devant un public hostile comme ça? Il s'est régalé,
gros. Ça l'est nourri sur la bouche.
Djokovic est en train de se nourrir de sa motivation parce que finalement, quand il est sur le central, le public est contre contre lui et pour son adversaire. Ils veulent des matchs plus longs. Il est en train de se nourrir de ça, Djokovic.
Oui, mais il a été hué hier pour son troisième tour et il a dit, voilà, c'est un manque de respect que de me siffler.
Mais ils ont
que oui, Nadal contre Söderling, tout le monde a pris parti pour Söderling parce qu'il voulait voir Söderling gagner et surtout permettre à Federer de gagner.
On huait Nadal, c'était juste un
peu. Et rappelez-vous, dans le sens inverse, Henri Lecomte, en finale, même lui, il se fait siffler par le public de Roland Garros alors que c'est un Français qui est en finale, il est opposé à Mats Wilander. Et voilà, mais ça fait partie du truc. Pourquoi le tennis serait le seul sport, tu as tout à fait raison, Steve, le seul sport où il fasse faire silence pendant les échanges.
Pendant les échanges, comme au foot.
Je suis pas d'accord avec toi. Non, mais ça, c'est intéressant parce qu'allons plus loin dans l'idée. Parce que on vous propose ce débat parce que. Des joueurs se sont plaints du public français.
Une ambiance de stade.
Donc on vous propose ce débat.
Ça va gêner la performance. Oui, la performance. C'est-à-dire que si t'entends plus le son de ta balle, il y a un moment, le tennis, t'as besoin aussi d'entendre.
Tu mets des oreillettes.
Arrête, Christophe, sois pas sûr. On a besoin d'entendre le son de la balle dans sa raquette.
Moi, j'ai joué
c'est
des matchs.
Technique,
oui, mais voilà. Après, j'ai joué des matchs, je parle des princes, où t'entends rien à mettre, donc c'est très perturbant aussi. Mais ça fait partie
j'entends des gens qui pleurent la Coupe Davis parce qu'elle a disparu, et maintenant, et les mêmes qui se plaignent parce qu'il y a du bruit sur un match de tennis avec un Français à Roland Garros. La Coupe Davis, les mecs qui servaient, ça crie.
Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre soutenir un joueur français et donc pousser le joueur français et donc beaucoup moins pousser, voire huer pendant un match un autre joueur, et interview d'après match, ça y est, c'est terminé, il a gagné, voilà, bien joué, on a poussé
le Français. Mais parce que le public n'a pas accepté la réaction de Taylor Fritz, tu prends un retour de boomerang dans les dents, voilà.
Non, mais 10 000 spectateurs t'appuient pas sur le bouton en disant, allez-y, vous pouvez faire du bruit. Ah non, éteignez, on fait plus rien. C'est 10 000 personnes.
Non, mais ils ont riposté
il y a un moment, tu peux pas contrôler. À l'attitude, quand même. Non, mais
JC, t'as oublié l'attitude, quand même, du joueur américain. C'est qui est pas exemplaire. Donc,
mais
non.
Qu'est-ce que t'as compris.
Le mec, il sert des doubles, on l'applaudit, il se fait huer à tour de bras. Il chambre un peu en faisant chute, et tu me dis que son attitude
est pas exemplaire. T'as pas compris, je m'en fous qu'il fasse ça. Je dis qu'on comprend pourquoi le public réagit mal. C'est tout, je dis pas ça. Je suis pas.
C'est pas mal.
Je me place pas par rapport au public. Je te dis, je m'en fous qu'il ait provoqué, c'est bien, tant mieux. Mais je veux dire, le public, c'est normal qu'à un moment donné, il réagisse, c'est tout.
Écoute, après Fritz, il n'est pas obligé de rester, il a dû rentrer au vestiaire et basta.
Il joue cet après-midi, Fritz.
Oui, et sur le même cours.
Ça va être sympa de voir la réaction.
J'espère qu'il va avoir la patate. J'aimerais qu'on prenne ton avis en compte ce que tu viens de dire, Christophe, parce qu'on a tous aimé, là, bon, il n'y a plus de Français, on en parlera à partir de 11h, mais on a tous aimé ces ambiances, ce public qui, lui, était à la hauteur, heureusement, de ce Roland-Garros. On aime ces ambiances. Est-ce que c'est possible entre les points, Stephen? Est-ce que ça, Sarah, je sais qu'elle n'est pas du tout pour. Est-ce qu'on pourrait, comme ça, commencer à huer, à applaudir entre les points?
Je milite pour. Alors, au début, le problème, c'est que les joueurs se sont adaptés à ce que quand tu lances la balle avant de servir, il n'y ait pas un bruit. Au golf, avant un swing, il n'y ait pas un bruit. Mais si, à un moment donné, tu permets le fait que les gens circulent, les se lèvent et tout ça, ça va être une question d'habitude.
Les mecs se lèvent.
Ça va être une question d'habitude.
Ils vont chercher à boire pendant nos échanges.
Non, mais parce que ce que je vous disais, s'il y a trop de brouhaha, tu n'entends plus le son de ta balle, donc c'est gênant, et que t'es tout seul.
Mais c'est une culture, ça peut changer, c'est la culture du tennis.
Visuellement, tu as à te concentrer sur une balle.
Oui, mais ça serait plus dur, Sarah, ça peut importe,
oui,
ça serait plus dur.
Peut-être
que ça serait mieux.
Mais les conditions atmosphériques, elles sont déjà extrêmement compliquées à gérer. T'as le vent, t'as le soleil, t'as les ombres. Si en plus, t'as des gens qui passent dans ton champ de vision, il y a un moment, il faut.
Comment on fait, on va tirer des lancers francs au calme, et que t'as des gens devant qui s'appliquent, tu mets des posters de femmes à pied, c'est la même chose. À l'ancien franc, t'es tout seul face au panier, y a personne qui défend sur toi, aux États-Unis, ce qui se passe derrière les paniers, t'as des drapeaux qui sont derrière, y a des posters de femmes toutes nues.
Moi, ça m'a, bon, ça m'a déstabilisé, mais un peu, parce que t'avais l'habitude, bien sûr. Eric Salio est avec nous, il voudrait apporter de l'eau.
Le tenant de la tradition, Eric, salut à tous, Eric Salio, en fait,
je vais pas apporter de l'eau à votre moulin, mais plutôt de la bière à votre moulin, parce que depuis cette année, il y a un self service de bière qui est juste derrière le cours Suzanne Lenglen, c'est-à-dire que tu donnes 10 euros et tu tu sers toi-même ta bière et ça marche du feu de Dieu.
Ah oui, 10
euros la pinte.
Une bière sans alcool au moins.
Ah non, non, avec alcool, bien sûr. Donc je me demande si le comportement un peu... un peu spécial.
Ah oui, tu
un
penses
spécial.
Qu'ils sont un peu
je pose la question, Eric,
tu t'en rappelles, chaque année pendant le tournoi de Monte-Carlo, les joueurs se plaignent parce qu'ils entendent le bruit des fourchettes et des couteaux des gens qui dînent ou qui déjeunent juste derrière le court.
Et ils ont remédié au problème en installant une sorte de
plastique.
Voilà, pour que ce soit vraiment bien insonorisé. Non mais ça gênait, il y avait même les odeurs des cigares. Les volutes de cigares, l'arbitre disait s'il vous plaît arrêtez de fumer, ça gêne les joueurs. Non mais là, où va-t-on? Mais là, franchement, ça marche du feu de Dieu le stand de bière. Hein. Donc je me demande si les mecs qui ensuite vont sur le Langlen ne sont pas un peu éméchés quoi.
Denis Servet.
Non, je voulais juste te dire, Eric, ton tweet que tu as envoyé à Vincent Moscato et à moi-même il y a quelques temps a choqué un ami, un grand sportif qui s'appelle Alain Roche.
Ok.
Voilà, je voulais te faire.
Oui, bah écoute, ça va pas empêcher de dormir. Hein.
Attendez, je rigole. Sinon, on comprend plus rien. C'est parce que vous avez vu le
match. Oui, voilà, on a pas vu le match. Mais il avait raison.
Attends, laisse-moi expliquer. On comprend rien, sinon, Denis. tu as vu le match avec Vincent Moscato de Gaël Monfils. Finalement, au quatrième set, vous êtes parti. Vous êtes dit, de toute façon, ça fait 3h30 qu'on est là. On a déjà assez vu. Et Eric Salio vous a taquiné en vous disant, vous ne devez plus venir sur un cours de tennis parce que ça ne se fait pas de partir en plein match.
Je sais, moi, je vois une Zara Picasso hybride. De 2014, si ça intéresse quelqu'un.
Alors, sachez, les copains.
Tu veux pas recontextualiser le truc ?
Non, mais sachez que Daniel Riolo, que vous connaissez bien, on embrasse Daniel. Daniel Riolo, il m'a dit : je veux intervenir sur ce que j'entends, car c'est un scandale. Voilà, Daniel Riolo veut intervenir, donc on va essayer de le prendre un peu plus tard dans cette émission. Malheureusement, les informations dans quelques instants. Et mon cher Daniel, on va essayer d'être avec toi un petit peu plus tard, et tu vas pouvoir faire la nique comme ça à nos GG. A tout de suite sur RMC, on reparle de Roland Garros avec Eric Salio. Il n'y a déjà plus de Français. Est-ce pire que prévu le bilan de nos tricolores? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.